Bonjour Claire.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 17 mai 2022. Je vous donne les titres d'actualité. Sans les sacrements, nous ne pouvons pas vivre. Je vais vous lire l'interview du cardinal Robert Sarra qu'il a donné à France Catholique numéro 3769 au sujet de son dernier livre paru aux éditions Fayard, Catéchisme de la vie spirituelle. Dans ce livre, le cardinal nous invite à redécouvrir l'importance et la vitalité des sept sacrements. En portrait, je vous lirai le témoignage du patron du jeune miraculé qui a permis la canonisation de Charles de Foucault. Je vous rappelle que le jeune miraculé s'appelait Charles lui aussi et il était promis à une mort certaine. Culture chrétienne, je vous présenterai d'abord un livre paru aux éditions Salvator du père Marc Vaillot intitulé « Aimer, c'est », petit livre de l'amour véritable. Et enfin, je vous lirai un portrait interview de Théo Curin que vous avez peut-être vu le 2 mai sur TF1 dans le film « Andigang ». Ce jeune handicapé nous dit que l'importance de toute une vie, c'est de donner de l'amour. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Nous commençons cette revue de presse avec le cardinal Robert Sarra, qui nous emmène à la redécouverte des sept sacrements dans son dernier ouvrage, donc paru aux éditions Fayard, Catéchisme de la vie spirituelle, entretien-interview qu'il a donné à France Catholique numéro 3769. Quelle est l'ambition de ce catéchisme atypique que vous publiez? Le cardinal nous répond « J'ai voulu aider les chrétiens à vivre la richesse des sacrements, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le mariage, le sacerdoce, la pénitence et l'onction des malades. Nous avons souvent oublié cette richesse parce que nous ne nous donnons pas beaucoup de peine pour mieux connaître et entrer en profondeur dans le mystère des sacrements. J'insiste particulièrement sur le sacrement de l'Eucharistie. La messe est parfois devenue un lieu de convivialité. Elle n'est plus toujours celui d'une rencontre vitale, personnelle, d'un cœur à cœur avec Jésus. Au IIIe siècle, lorsque l'empereur Dioclétien avait interdit la messe, les chrétiens d'Abitène, donc qui se trouvent dans l'actuelle Tunisie, ont désobéi. Interrogés pour savoir pourquoi ils ont désobéi à l'ordre impérial, ils ont répondu « Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie ». L'affirmation de cette vérité leur a valu le martyre. L'Eucharistie est un besoin primordial, une nécessité vitale. Mais on peut songer aussi au sacrement du baptême ou de la confirmation, souvent réduit à des fêtes familiales. Or, ce sont des actes essentiels qui engagent dans la vie d'enfant de Dieu. Y a-t-il urgence, selon vous? Nous avons hélas perdu le sens des sacrements depuis longtemps. Le mariage est fragilisé par les séparations qui se systématisent. À la messe, on voit des prêtres transformer tel canon ou telle prière comme s'il lui appartenait alors qu'il relève de la tradition. Il faut réapprendre à protéger notre âme et pas seulement notre corps. Sans les sacrements, l'Église n'existe plus. Sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Ils nous fortifient sur un chemin intérieur par lequel nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. L'image du désert est très présente dans votre propos. C'est le terreau dans lequel peut s'enraciner la présence de Dieu dans nos vies? Le cardinal nous répond « Le désert est le lieu où Dieu se révèle. Il faut qu'il y ait des déserts dans notre cœur et dans notre vie, car nous sommes envahis par le bruit et l'activisme. Au fond de chacun subsiste un désir plus ou moins conscient d'échapper à ce tourbillon d'apparence, à cette vacuité qui nous assaille. Si nous réussissons à créer des déserts intérieurs, faits de silence et d'adoration, nous serons remplis de présence divine. C'est dans la pauvreté et le dépouillement que nous apprenons à devenir attentifs à Dieu. Le désert est plein de Dieu. Son immensité et sa simplicité le révèlent. Son silence le donne. Revenons au sacrement. Il faut faire baptiser les enfants dès les premiers jours, dites-vous. Pourquoi ? Eh bien, le cardinal nous dit « Je propose le baptême dès les premiers jours car le baptême efface le péché. Le baptême donne et fait croître la vie de Dieu en chaque baptisé et nous fait ressembler au Christ. Il fait de nous des enfants de l'Église qui nous communique la grâce et nous éduque dans la foi. Saint Paul écrit aux Romains : Ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? Par le baptême, le chrétien s'identifie, se configure totalement au Christ mort et ressuscité, à tel point que ce qui se passe pour le Christ vaut également pour lui. Saint Paul dit encore : Comprenons-le. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Le baptisé devient la maison, l'habitation de Dieu. Il ne faut pas attendre que Satan s'incruste dans l'âme de l'enfant. Autrefois, quand le prêtre baptisait, il posait cette question : Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? Les parents répondaient : La foi. Aujourd'hui, ils répondent : Le baptême. Il est malheureux d'avoir changé cette réponse qui engageait toute l'Église. Naguère, toute la communauté paroissiale accompagnait l'enfant sur le chemin de la foi. Désormais, cette communauté est réduite aux parents, parrains et marraines. Les cas sont rarissimes, mais que dites-vous aux prêtres qui diffèrent le baptême d'un enfant parce que ses parents ne vont pas à la messe ? Le cardinal nous dit : Ils ont à la fois raison et pas totalement. La pratique des parents ou l'absence de pratique ne peut engager l'âme de l'enfant. Mais une fois l'enfant baptisé, le prêtre doit tout faire pour catéchiser l'enfant et pour dialoguer avec la famille et la ramener à la messe. D'où l'importance capitale de la pastorale de la jeunesse, de la pastorale familiale, des visites régulières du prêtre aux familles de sa paroisse. Vous accordez une attention particulière à la confirmation, souvent considérée dans les familles comme secondaire par rapport au baptême ou à la première communion. Il ne faut pas que la confirmation se fasse au-delà de l'âge de 12 ans, pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais pour le baptême. Dieu doit prendre sa place dans les âmes le plus tôt possible. Retarder la confirmation, c'est risquer de perdre l'enfant dans la vie chrétienne. Car le démon, voyant cette demeure de l'âme parfaitement libre, balayée, bien en ordre, il s'en va alors prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Dans l'accompagnement de l'adolescent, il ne faut pas compter que sur sa paroisse, même si le scoutisme et les patronages sont excellents pour la jeunesse. La famille, en lien étroit avec le prêtre, joue un rôle crucial dans une éducation chrétienne. Concernant l'Eucharistie et les mesures d'interdiction de la messe qui ont été prises pendant la pandémie, que nous disent-elles en creux de ce sacrement ? Le cardinal Sarah nous dit : Je songe d'emblée à la parole du Christ qui nous a dit : Si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Qui peut rester en vie sans manger ? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que nous faisons face à une épidémie. Le virus Ebola sévit en Afrique et y a fait des ravages. Pour autant, les églises n'y ont jamais été fermées. Protéger le corps est une bonne chose, mais il faut absolument s'occuper de l'âme, mot désuet qui a presque disparu de notre vocabulaire. Cette période restera marquée par une grande tiédeur de l'Église et par un manque de foi et de courage. Vous écrivez qu'interdire la messe, c'est euthanasier les chrétiens. C'est une parole abrupte. Que nous dit le cardinal ? Il nous dit : Sans la célébration de l'Eucharistie, les chrétiens sont coupés de leur source vitale. Aucun gouvernement, aucune autorité ecclésiastique ne peut interdire légitimement la célébration de l'Eucharistie. Les mesures restrictives qui ont été prises menacent le droit fondamental des hommes à honorer Dieu et à lui offrir le culte qui lui est dû. Qui a le droit d'entraver un rapport à Dieu ? À quoi bon survivre sans vivre de la vie de Dieu ? Les chrétiens doivent s'opposer à ces dispositions. Au cours des grandes épidémies du passé, de grands saints n'ont pas hésité à faire des processions, à visiter les malades pendant les pandémies et à leur apporter la communion. Il est un sacrement qui parfois fait un peu peur, c'est l'onction des malades. Et pourtant, il ne faut pas attendre la dernière minute pour l'administrer. Son effet principal est le réconfort spirituel de l'âme du malade, via un don particulier de l'Esprit-Saint, comme évoqué dans le catéchisme de l'Église catholique. Comme catholique, il est de notre devoir d'aider nos prochains à se préparer à bien mourir. L'Église a le devoir de parler des fins dernières. « J'étais nu, j'étais malade », nous dit Jésus. Et il faudra répondre à la question de savoir si nous l'avons bien visité. Si l'on y songe, et au risque d'être incompris, la mort pourrait être considérée comme le moment le plus beau de notre existence. Elle ne doit pas nous effrayer. Avec elle, la porte s'ouvre pour rencontrer Dieu face à face. Rencontre, mais aussi jugement. Il y a de quoi être impressionné tout de même. Dieu n'est pas un juge sévère, mais un père. Il va m'accueillir avec une grande miséricorde. Cependant, si nous négligeons ses dons, si nous ne nous sommes jamais intéressés à lui, si nous n'avons jamais lu sa parole, il nous faudra suivre la logique de nos choix. Dieu respecte notre liberté. Il est miséricordieux et juste. Il évalue donc les actions des hommes dans la vérité et dans la justice. Dans sa bonté inépuisable, il nous donne la force pour être victorieux du mal, par le truchement des sacrements en premier lieu. Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dans votre livre, vous insistez sur la beauté d'un sacrement très spécifique, celui de l'ordre. La beauté du sacerdoce, c'est le prêtre qui se découvre en la personne du Christ quand il prononce les paroles de la scène « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». De même, quand le prêtre donne l'absolution au pénitent en confession, il parle, mais c'est bien la parole de Jésus qui agit à travers lui. La vocation est si belle qu'il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas entachée, alors que le prêtre est un pécheur comme les autres. Tout doit être entrepris pour que sa vie soit la plus en conformité possible avec la grandeur d'un tel appel. Cette tâche d'une grande noblesse exige une longue préparation. Avec le tarissement des vocations, les prêtres d'aujourd'hui sont débordés. Et pourtant, malgré ces circonstances, ils doivent s'inspirer de la vie cachée de Jésus, resté 30 ans à Nazareth, en lien profond avec son Père. Le prêtre qui néglige la prière, assurément prioritaire, pour se consacrer à sa pastorale, est perdu. Il lui faut aller visiter Jésus au tabernacle et demeurer longtemps avec lui. Un jour, Mère Teresa expliquait à un jeune prêtre que sans le Seigneur, nous étions trop pauvres pour nous occuper des pauvres. Elle avait entièrement raison. Tiédeur, manque de foi, pusillanimité, soumission, le tableau que vous dressez des chrétiens peut sembler parfois bien sombre. L'Église peut-elle encore changer le monde ? Le cardinal nous répond « Bien sûr, elle est faite pour changer le monde et emmener le monde vers Dieu. Elle est faite pour évangéliser. C'est son devoir de changer le monde. Comme disait le pape Paul VI dans l'exhortation apostolique Evangelii Mundi, nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner. Être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Jésus nous encourage avec l'Esprit-Saint qu'il nous envoie. Alors que nous avons l'habitude aujourd'hui de tout comptabiliser et de vivre dans les statistiques, il nous faut apprendre à vivre dans le temps long. Quand nous plantons un arbre, nous n'en récoltons pas tout de suite les fruits. Ben, la vie ici-bas est un voyage, un passage. On a oublié que la vraie patrie, c'est le ciel. Nous devons préparer maintenant cette vie éternelle avec l'aide de la parole de Dieu et des sacrements que seule l'Église peut distribuer. Et pour terminer, un cœur chrétien est toujours un cœur heureux, dites-vous. Pourquoi ? Le cardinal Sarah nous répond « Un cœur chrétien est le temple de Dieu, donc c'est un lieu de joie. » C'était l'interview avec le cardinal Robert Sarah à propos de son dernier livre paru aux éditions Fayard, Catéchisme de la vie spirituelle, interview que vous pourrez retrouver dans France catholique numéro 3769. La plupart d'entre vous ont peut-être suivi, assisté à la canonisation de Charles de Foucault. Je vais vous lire un petit article témoignage paru dans France Catholique du mois précédent, donc du patron François Asselin, qui dirige la Confédération des petites et moyennes entreprises, dont le jeune miraculé fait partie tout simplement de son entreprise. Voici donc le témoignage paru dans France Catholique numéro 3768. Le miraculé, qui a permis la canonisation de Charles de Foucault, travaille à vos côtés. Quelles ont été les circonstances de l'accident ? Donc François Asselin nous répond. Nous sommes le 30 novembre 2016. Alors que je suis en déplacement à Paris, j'apprends que Charles, l'un de mes charpentiers, a fait une chute de 15 mètres de haut du toit de la chapelle de l'institution Saint-Louis à Saumur, que notre entreprise était en train de restaurer. Quand on m'explique les circonstances de l'accident, je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Le jeune homme s'est fracassé sur un banc. Le montant du dossier a percé son abdomen et traversé sa cage thoracique sous le cœur. Malgré cela, il s'est pourtant relevé, a marché 50 mètres en sortant de la chapelle et croisé le personnel de l'établissement qui a immédiatement appelé les secours. Le SAMU a jugé qu'il fallait un hélicoptère pour le transporter au plus vite, mais il n'y avait aucun moyen de monter le blessé à bord parce que la pièce de bois, restée coincée dans son abdomen, gênait la largeur de la porte. Finalement, une ambulance l'a conduit au CHU d'Angers pour être opéré. 8 jours plus tard, il commençait à se lever, à s'ennuyer dans sa chambre. 2 mois plus tard, il retournait au travail. Aucun organe vital n'avait été touché. Notre paroisse à Saumur est la paroisse Charles de Foucault. Nous achevions, ce jour, une grande neuvaine pour la canonisation du Bienheureux. L'accident a eu lieu la veille du 100e anniversaire de sa montée au ciel. Ce charpentier s'appelle Charles. Lorsque l'accident s'est produit, j'ai immédiatement contacté la communauté Marie-Reine Immaculée de Bois-le-Roi, dont nous sommes membres messagers, ainsi que notre curé, le père Artharit, pour leur confier ce jeune homme. Ce sont eux qui nous ont invités, mon épouse et moi, à invoquer particulièrement Charles de Foucault. Nous avons passé la nuit à prier. Et quand j'ai pu me rendre à l'hôpital, Charles m'a expliqué, « J'ai voulu aller plus vite, je suis montée sur la voûte et je l'ai senti céder. » Je connaissais la hauteur. Je me suis dit que j'étais cuit. Je ne voulais pas tomber sur les jambes, je ne voulais pas tomber sur la tête. Je me suis allongée, j'ai mis ma tête entre mes mains et je me suis abandonnée. Alors même qu'il n'est pas baptisé, qu'il n'a reçu aucune culture chrétienne, sans le savoir, il récitait cette prière du père Charles de Foucault, « Mon père, je m'abandonne à toi ». En quoi est-ce miraculeux ? À Rome, en parallèle et sans se consulter, les 7 médecins de la Consulta Medica devaient statuer sur l'explication de la guérison de Charles. Si l'un d'entre eux pouvait expliquer rationnellement sa survie, alors la procédure devait s'arrêter net. À l'inverse, à partir du moment où médicalement il ne pouvait pas l'expliquer, le caractère extraordinaire était reconnu. De façon unanime, ces 7 médecins ont conclu que la conséquence de cette chute n'était absolument pas celle qui aurait dû être. Il aurait dû mourir dans 95% des probabilités, ou au moins connaître des séquelles irréversibles. Or, il n'en a pas. Cet accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Comment a-t-il été vécu au sein de votre entreprise ? En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que c'était incroyable. Mais quand Jésus accomplissait des miracles, quand les gens les voyaient, certains n'y croyaient pas. Dans mon entreprise, beaucoup ont vu ce miracle, mais ils sont nombreux à penser qu'il a eu de la chance, ou même à dire que c'est miraculeux, mais juste comme une expression courante. Même Charles exprime qu'il est miraculé, mais sans avoir rencontré Jésus. Je n'ai pas la foi, mais j'ai eu trop de chance pour que ce ne soit pas un miracle. Quelle relation entretenez-vous avec Charles ? C'est un excellent charpentier et je suis son employeur. C'est une relation de confiance mutuelle. Il ne connaissait pas du tout la vie de Charles de Foucault. Alors à l'hôpital, je lui ai offert une bande dessinée biographique. Il a accepté que nous protégions son identité. Il n'avait que 21 ans à l'époque des faits, ce qui peut être déstabilisant. Je le remercie pour son écoute et son humilité. Il a accepté de participer à l'enquête romaine et de rencontrer de nombreux hommes d'église avec détachement et bienveillance. Si ça peut l'aider à devenir saint, alors pourquoi pas ? Que vous apporte personnellement ce miracle? Malheureusement, cela ne rend pas meilleur. Mais on se sent tout petit, cela rend humble. Alors que nous sommes tous en quête de sens, que l'on espère avoir la réponse là-haut, nous avons la chance d'avoir la réponse alors que nous sommes encore sur terre. Et nous prenons conscience que le bon Dieu nous aime tellement que même s'il nous sauve la vie, il ne nous impose même pas que l'on croit en lui. En quoi Charles de Foucauld peut être un saint pour la jeunesse? L'abbé Vincent Artarit était le curé donc de la paroisse au moment des faits. De la spiritualité du père de Foucauld, il retient le silence de la prière et l'adoration du Saint-Sacrement pour demeurer au service de tous, mais enraciné dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Pour lui, ce n'est pas anodin si c'est un jeune qui est tombé et si cela s'est produit dans un établissement scolaire. Il témoigne que de nombreux paroissiens, parents ou grands-parents, demandent son intercession pour des enfants qui partent dans tous les sens. Ce saint représente donc un signe très encourageant pour la jeunesse. Charles de Foucauld a aussi beaucoup cherché sa vocation. L'ermite s'est dévoué pour la conversion des musulmans. Est-ce un saint dont notre société multifracturée a particulièrement besoin? Notre identité chrétienne est primordiale. Les chrétiens doivent favoriser un dialogue, mais dans lequel chacun sait qui il est et d'où il vient. Saint Charles de Foucauld, priez pour nous. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais d'abord vous parler très brièvement du livre du père Marc Vaillot, paru aux éditions Salvator, intitulé « Aimer, c'est… » Petit livre de l'amour véritable. Qu'est-ce qui peut combler notre vie? L'amour. Qu'est-ce qui inspire les actions qui comptent vraiment? L'amour. Qu'est-ce qui me rend triste, amer, malheureux, vide? L'absence d'amour. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime cet ami, mes enfants, mon épouse, mon époux, Dieu. Que de nuances et de différences dans cet unique verbe « aimer ». Et pourtant, toute relation amoureuse renferme toujours une profonde part de mystère qui se réfracte de manière diverse, pareille aux multiples facettes d'un même diamant. C'est lui que nous voulons regarder de plus près. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Au-delà des sentiments ou des sensations, savons-nous aimer ? Aimons-nous vraiment? Aimons-nous ce qui mérite réellement d'être aimé? Rien n'est moins certain. C'est le pourquoi de la nouvelle édition de ce petit livre, déjà largement publicité par le public. Ce n'est pas un savant traité, mais plutôt un miroir tendu au lecteur. Un miroir à facettes lui aussi, parfois léger, parfois grave, logique et paradoxal, à l'image de l'amour. Chaque chapitre renvoie à l'un des reflets de l'amour, 54 exactement. Ce livre s'adresse à un public très varié de jeunes et d'adultes. Il s'agit donc de « Aimer, c'est » petit livre de l'amour véritable du père Marc Vaillot, paru aux éditions Salvator. Et enfin, je termine avec le témoignage de Théo Curin, héros de Andy Gang, que vous avez sans doute vu sur TF1 le 2 mai. Ce jeune handicapé nous dit tout simplement, sans avoir la foi mais en croyant avec les valeurs que Dieu inspire à son cœur, ce qui compte, c'est de donner de l'amour. Alors, qui est Théo Curin? Théo Curin a, l'âge de 6 ans en 2006, est atteint d'une méningite bactérienne. Son pronostic vital est engagé. Seule solution, l'amputer des 4 membres. Il va devoir réapprendre à marcher, s'habiller, manger, écrire, nager. Moins de 10 ans plus tard, il participera aux Jeux paralympiques. Depuis, il enchaîne les records. Vice-champion du monde de 100 et 200 mètres de nage libre, il termine un Half Ironman en 2017 et traverse un lac de 108 km en totale autonomie. As-tu été intimidé, Théo, de te retrouver devant la caméra? C'est un rêve qui pour moi est devenu réalité. J'ai saisi cette opportunité en me disant qu'il n'en aurait peut-être pas 1000. Un prime sur TF1, le premier rôle, c'était complètement fou. Le message me touchait personnellement, il fallait y aller. Tu te voyais défendre un jour un film en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Théo nous dit « Je savais que ce rôle me permettrait de faire bouger les choses, mais je ne veux pas devenir le porte-parole des handicapés. Je trouve dommage de ranger les gens dans des catégories. Le monde est déjà assez compliqué comme ça. » Ce n'est pas parce que je suis handicapée que j'ai le droit de parler du handicap. Je trouve cela encore plus fort qu'une personne valide en parle. Il est bon de s'entraider. Si l'on parvient à former une équipe tous ensemble, ce sera encore plus fort. Je ne cherche pas à prendre ma revanche, car je n'en veux pas à la vie. Mon livre s'intitule « La chance de ma vie ». La chance de ma vie, c'est tout ce dont elle est remplie. Être accompagnée par des gens aimants autour de moi, mes parents, ma sœur, mes amis. J'ai eu beaucoup de chance, car sans eux, je ne serais personne. La chance de ma vie, ce sont toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi. De m'être rendu compte que la vie peut basculer du jour au lendemain. Quand tu as pris conscience de cela, tu ne vis plus du tout de la même manière. Du jour où j'ai remarché pour la première fois avec mes prothèses à 7 ans, elle est là, ma plus grande fierté. Même si je devais décrocher un très grand rôle au cinéma, ce ne serait qu'un simple plaisir. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir su rebondir avec mes proches. Il faut faire des sacrifices, c'est clair. Tout ne tombe pas du ciel. Pour accomplir ma traversée dans les Andes, je me suis entraînée 5 fois par semaine et j'ai fait de nombreux stages intensifs. On a quand même failli y passer 3 ou 4 fois. Aujourd'hui, j'arrive à tout faire tout seul. Pas de la même manière que certains, c'est sûr, mais ce n'est pas ce qui compte. Que je ne mange pas de la même manière ou que je ne fasse pas mon omelette comme les autres, pas grave. Le plus important, c'est la finalité. Il faut reconnaître que se donner les moyens de sa mobilité est très dur. Le mieux, c'est de perdre le plus vite possible ses préjugés. Dès que l'on a une question concrète à poser à un handicapé sur sa différence, il faut la lui poser. Ce qui compte, c'est de donner de l'amour. C'est essentiel. L'amour est l'une des choses les plus importantes à mes yeux. Sans amour, je ne ferai pas tout ce que je fais aujourd'hui. Ce qui m'a le plus rassurée à l'hôpital, c'est de voir mes parents avec autant d'amour dans les yeux, en dépit de ce qui était en train de se passer. Tout enfant remonte du bloc. Il lui manque un membre. Il a des cicatrices sur tout le corps. Tu pourrais le regarder avec dépit, avec tristesse, et pourtant mes parents m'ont toujours regardé avec fierté. C'est ça qui m'a motivée. C'était l'interview de Théo Curin, héros de Handigang, que vous pourrez retrouver sur la plateforme de TF1. Interview qui est parue dans l'Invisible de ce mois-ci. Nous passons très rapidement à la conclusion de cette revue de presse. Je conclue très rapidement cette revue de presse du 17 mai 2022 en vous redonnant les titres d'actualité. Je vous ai d'abord lu l'interview du cardinal Sarah donnée à France catholique numéro 3769 sur son dernier livre « Catéchisme de la vie spirituelle, une redécouverte vitale des 7 sacrements ». Je vous ai ensuite lu le témoignage du patron du miraculé de Charles de Foucault qui s'appelle aussi Charles. Donc figurez-vous que ce miraculé n'a même pas la foi. Cette interview figurait dans France catholique numéro 3768. Et en culture chrétienne, je vous ai parlé très brièvement du livre du père Marc Vaillot aux éditions Salvator, intitulé « Aimer, c'est, petit livre de l'amour véritable ». Et enfin, l'interview de Théo Curin, héros du film Handigang, qui est passé le 2 mai sur TF1 et que vous pouvez retrouver sur la plateforme de la chaîne de télévision et dont vous pourrez retrouver l'interview dans l'Invisible de ce mois-ci.
Chers auditeurs, c'était la revue de presse de Claire. Retrouvez cette revue de presse en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.